boy, hey, j'ai tellement pas de bisous. Ouh, une chance qu'il y avait une baie vitrée parce que la rondelle aurait pu frapper ma femme et mes deux enfants qui sont des estrades. Là, l'objectif du sketch, c'est pas de retenir que j'ai manqué le filet par peu, là, genre 2-3 pieds.
6 pieds.
Pardon?
6 pieds.
6 pieds. Bon, ça y est. 6 pieds à cette heure. Non, l'objectif, c'est de retenir l'importance des barrières de protection.
La SST expliquée avec François-Étienne Paré.
Allons droit au but et écoutons Laurent Giraud, ingénieur, qui nous explique c'est quoi une barrière de protection.
Merci. Ben, je vais reprendre ton exemple du hockey. La glace, pour nous, en sécurité des machines, c'est la zone dangereuse, c'est souvent l'intérieur de la machine. Les estrades, c'est la zone de sécurité, là où les spectateurs ne veulent pas être abîmés. Et c'est le autour de la machine, là où vont se trouver les utilisateurs de la machine. La baie vitrée, c'est le protecteur, plutôt qu'une barrière de protection, je vais utiliser le terme protecteur. Et c'est un élément physique qui sépare la zone dangereuse de la zone de sécurité. Sur les données ou les statistiques, il n'y en a pas beaucoup sur le manque de protecteurs. Par contre, dans une des normes de base en sécurité des machines, il y a un article qui mentionne, puis là je vais lire mon texte, il est admis que si aucune mesure de prévention n'est appliquée, la présence d'un phénomène dangereux dans une machine entraînera tôt ou tard un dommage. Pour faire simple, si j'ai une machine sans protecteur, tôt ou tard, ça va entraîner un accident avec cette machine. Pourquoi ? Parce que la machine, elle est construite pour aller plus vite et être plus fort que l'humain qui va l'utiliser. L'humain ne gagnera pas contre la machine. Il n'y a pas beaucoup de données. Alors j'ai été retrouvé, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé une étude des années 80 en Finlande qui indique que le nombre d'accidents sur des tours a diminué d'environ 50% sur une période de 5 ans en mettant des protecteurs sur ces machines. C'est clair qu'un protecteur, c'est utile. Un peu plus récemment, en France, en 2004, il y a eu une étude sur des accidents qui impliquaient des machines automatisées. Et cette étude a montré qu'environ un tiers des 437 machines n'avaient pas de protecteur ou de dispositif de protection. Et donc, ça avait entraîné des accidents. Malheureusement, au Québec, il n'y a pas de données, on va dire, plus précises, mais on peut utiliser ces données d'autres pays qui sont comparables à celles du Québec. À propos, la porte d'un four à micro-ondes, ça a deux rôles. Porte, pour moi, égale protecteur. Le premier rôle, c'est d'empêcher de mettre la main dans le micro-ondes. On comprend très bien qu'on ne veut pas se faire cuire la main. Et le deuxième rôle, c'est aussi d'empêcher que les micro-ondes sortent du four. Donc un protecteur, ça peut avoir deux rôles. Souvent le premier, c'est d'empêcher l'utilisateur de rentrer dans la machine. Mais le deuxième, c'est aussi d'empêcher de temps en temps des choses de sortir de la machine, comme par exemple la rondelle au hockey.
Ah, quelle belle scie à onglet. Ça, c'est un bon achat. Bon, je vais pouvoir en faire du bricolage puis du découpage de corps de rond. Bon, voilà. Bon, c'est quoi ce morceau de plastique-là? Ça, c'est-tu dans l'emballage ou c'est... On voit pas bien avec ça. Bon, ça doit s'enlever. Nanana, OK, OK. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ne pas enlever protecteur. OK, OK. Bon. Ben oui, grand fafouin, ça protège mes doigts, ça. Donc, je pense que je vais le laisser.
Avant d'aller plus loin, on va juste mettre une chose au clair. Il y a plusieurs types de protecteurs. Le grand classique, c'est le protecteur fixe. Lui, il ne peut être démonté qu'à l'aide d'un outil, donc une clé, une paire de pinces ou d'autres choses, ou alors on va le détruire pour passer par-dessus. Quand on dit détruit, on va utiliser une disqueuse, une scie alternative, mais on va vraiment le défaire. Il est facile d'installation, mais il reste dans les jambes. Pourquoi ? Parce qu'il est fixe. Puis c'est vraiment son utilité première, être fixe, être là, empêcher le passage dans un sens ou dans l'autre. Il peut être enveloppant, couvrir toute la machine ou tout le problème, ou il peut être de maintien à distance parce qu'il sera suffisant, un peu comme une clôture qui t'empêche d'accéder à quelque chose de dangereux. Il y a le protecteur mobile, c'est un peu comme une porte dans un mur, ça s'ouvre, ça se referme. Quand c'est fermé, t'es protégé, quand c'est ouvert, t'es pas protégé. Et à ce moment-là, pour qu'il joue son rôle complet, on va lui mettre un dispositif de protection ou un dispositif de sécurité qui va connaître sa position et envoyer un ordre d'arrêt ou de fonctionnement à la machine. Il y a aussi les protecteurs à fermeture automatique, comme ceux que tu as vus dans ton atelier, pour des scies à onglets, des scies circulaires ou d'autres choses. Mais attention, ces protecteurs-là, ils ne sont pas intelligents du tout. Oui, ils protègent contre un accès accidentel à la lame de scie. Mais par contre, si tu mets la main sur la planche et que tu pousses ta scie ou que tu descends ta scie, la main va être coupée avec la planche. Et puis, je vais rajouter, en plus des protecteurs, les dispositifs de protection. C'est pas quelque chose de physique qui protège, mais c'est quelque chose qui envoie un ordre d'arrêt à la machine. On l'utilise avec les protecteurs mobiles. Mais on peut aussi les utiliser tout seul. Et puis, je reprends ton exemple du hockey. Imagine un détecteur de rondelles volantes au-dessus de la glace. Ce détecteur de rondelles volantes, quand il voit une rondelle, il va déclencher un filet. Puis à ce moment-là, tu n'as plus besoin, on va dire, de protecteur autour de ta patinoire pour regarder le match.
Tu sais, regardons ça, ma vieille sirène dans le coin, qui n'a pas de protecteur. Ah, le protecteur est juste à côté. C'est un peu gênant. Je vais le remettre tout de suite dessus. Moi, quand j'y pense, finalement, ça doit exister depuis longtemps, les protecteurs sur les appareils.
Dans mes recherches, j'ai récupéré un jour un guide de 1914 dans lequel les protecteurs étaient déjà très bien décrits, aussi bien que maintenant, et les distances de protection étaient équivalentes. On a évolué, mais pas tant que ça. Le futur, ça va être le protecteur avec un dispositif et une logique. On va aller plus vers des protecteurs mobiles qui vont permettre plus de facilité et plus de souplesse à l'utilisation de la machine, mais il faut que ce soit fiable. Parce qu'on ne veut surtout pas, un jour, ouvrir un protecteur mobile, puis que la machine continue à fonctionner, puis qu'on mette la main dedans sans faire exprès. Le protecteur, globalement, il est conçu pour protéger la personne qui utilise la machine. Mais la personne qui répare ou qui débloque, pour l'instant, avec un protecteur fixe, ça ne marche pas. Donc, dans le futur, on devrait pouvoir protéger les personnes qui interviennent dans les machines pour les réparer ou débloquer. Attention quand même, pour l'instant, au Québec, quand on répare une machine, il faut utiliser le cadenassage ou il faut appliquer le cadenassage. Mais des méthodes alternatives sont possibles, d'où les protecteurs avec des dispositifs.
Je comprends qu'il y a des protecteurs, des barrières de protection, mais on ne réussira jamais à empêcher les accidents à 100%. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Alors, pour plein de raisons, un protecteur, il n'est pas forcément plein. Il peut y avoir des trous dedans, un peu comme le gruyère. Qui dit trou, dit accès possible. Alors, pourquoi? Parce qu'une machine, on ne va pas la mettre sous une cloche en verre. Une machine, elle va avoir besoin d'avoir des éléments qui rentrent, d'avoir des pièces qui sortent, puis d'avoir des ouvertures par lesquelles ben, on va peut-être la réparer aussi. Qui dit ouverture, dit accès possible, souvent pour les mains. Et puis, qui dit accès possible, dit accident possible. Donc, pour éviter ça, il y a une norme qui existe sur les distances de sécurité et qui permet de connaître, en fonction de la taille des trous qui peuvent être de différentes formes, rond, carré, forme de fente, ben les distances de sécurité associées. Mais la norme, elle est compliquée. C'est des tableaux qui sont vraiment pas faciles à lire. Et à ce moment-là, il y a deux solutions. Il y a la première solution qui est d'utiliser un sécurimètre physique, un gabarit. On découpe un gabarit, puis on essaye de l'introduire dans les ouvertures de notre machine. Puis si le gabarit ne touche pas la partie dangereuse de la machine, ça veut dire que le protecteur est à sa bonne position. La deuxième solution, c'est de mesurer soit les ouvertures, la taille des ouvertures, soit la distance de sécurité, et d'utiliser une petite application que l'IRSST a développée sur la base des normes pour vérifier que la taille de l'ouverture et la distance sont compatibles et que le tout est sécuritaire. Il suffit de taper « sécurimètre » sur le site de l'IRSST et vous allez trouver la bonne page et les bonnes informations.
Surtout que quand on travaille dans les règles de l'art, eh bien, on conserve nos doigts. Comme là, j'ai gardé mes 10 doigts. Je les garde, ouais, jusqu'à ce que je tape dessus avec mon marteau parce que c'est vrai que j'ai pas de visou. Y a-t-il quelqu'un qui tiendrait mon clou pendant que je tape dessus avec mon marteau? S'il vous plaît, quelqu'un?
Écoutez les autres épisodes de la SST expliquée sur votre plateforme préférée.
Phonique. Le fin son de l'histoire.